Édouard, il est où, Édouard?
Édouard voyage.
Vous êtes sûr qu'il est parti pour le travail?
Oh, le pauvre.
Édouard voyage.
Voyage, tonton Édouard.
Tonton Édouard est loin géographiquement, mais il est très près quand même. C'est ça qui est magnifique dans le monde moderne, c'est qu'on peut être très loin géographiquement, être très liés les uns les autres. Je suis dans une petite caravane de cinéma, ces petites maisons de 8 mètres carrés qu'on peut poser n'importe où, réinventer des vies partout où on se déplace. Je suis toujours avec mon ami Hodgers, cet homme de Soweto, Southwest Township, hein, le fameux Soweto d'où sont parties les émeutes contre les Afrikaners pour partager le pouvoir et qui ont mené Mandela en 94 au pouvoir. On écoute l'hymne national sud-africain qui est un mélange d'anglais et de zoulou.
Oh, sis, I'm gonna sing you
l'hymne.
National anthem, Nkosi sikeleli Afrika, maliphakanyisa pombo layo, izwa imithandazo yethu, Nkosi sikelela thina usapho lwayo.
Kosi Sikelela Africa, God bless Africa, Dieu protège l'Afrique. Cet hymne que j'ai entendu depuis que je suis arrivé après avoir traversé les faubourgs dorés de Sandton et de Rosebanks où des villas superbes protégées par des grillages métalliques et électrisés nous mènent ensuite dans les ghettos de Soweto où des gamins qui buvaient de la bière black gold ont chanté avec moi cette hymne, alors que moi je leur entonnais la Marseillaise comme réponse. C'était le seul échange musical que j'ai eu jusqu'ici, mais nous irons plus loin dans ces échanges de musique. À tout de suite, on vous retrouve. Vive Thierry Paré qui est très populaire ici.
Les Turcs seront amenés à se prononcer par référendum.
Je sais pas, alors j'arrive. Je suis là, je suis moi, je suis en Afrique du Sud. Je vous fais une chanson avec des copains ici. J'ai pas le droit.
C'est
ni
vrai.
Bonjour, ni merde, tout de suite les Turcs. Alors là,
c'est vrai,
bonjour,
t'as raison.
Bonjour dans un premier temps.
Allez, bonjour
qui est en... Alors on verra après les infos qui est en studio. C'est comme ça qu'on conçoit le truc.
Bonjour à toute l'Afrique
travaille
du Sud.
Travaille américaine.
Et
alors
à toi,
d'accord. D'abord le journal et après on cause.
Oui, on peut faire ça, c'est bien. Alors les Turcs donc seront amenés à se prononcer par référendum le 16 avril prochain sur une controversée réforme de la Constitution qui vise, on va faire court, à renforcer les pouvoirs du président Erdogan. Depuis l'annonce de ce scrutin, le pouvoir turc organise des meetings pour promouvoir le oui au référendum, y compris à l'étranger. Il s'agit de mobiliser la diaspora lorsque c'est possible. Oui, parce que la Suisse et l'Allemagne, la semaine dernière, ont refusé que des meetings turcs se tiennent sur leur territoire. Même chose ce week-end de la part des Pays-Bas. Les Pays-Bas ont refusé que le ministre des affaires étrangères turcs se rendent sur leur territoire. Ce dernier a fini par se rendre à Metz, où il a pu organiser un meeting avec les ressortissants turcs de la région. Du coup, si Benoît Hamon, le candidat socialiste à la présidentielle, a défendu la position française, plusieurs autres formations politiques, allant d'Europe Écologie Les Verts au FN, à celle de Nicolas Dupont-Aignan ou encore à la droite de François Fillon, estiment que les autorités françaises auraient dû interdire ce meeting au nom de la solidarité européenne. Un ami m'a offert des costumes en février. Et
j'ai
alors
vu les photos. J'ai vu les photos du meeting. C'est à l'hôtel La Citadelle. C'est là où on loge les comédiens dans les productions très luxueuses. Donc j'ai imaginé dans quelle chambre ont dormi les ministres turcs. Donc tout à coup, on se retrouve grâce au miracle de l'hôtellerie dans la grande histoire. C'est une petite anecdote sans intérêt.
Mais au contraire, c'est une info supplémentaire. Un ami m'a offert des costumes en février. Et alors, se défend François Fillon dans les colonnes du quotidien Les Échos ce matin. C'est la nouvelle, entre guillemets, polémique concernant le candidat de la droite. Il s'est fait offrir pour près de 50 000 euros de vêtements. Des costumes en l'occurrence, depuis 2012, dont 35 500 réglés en liquide. Reste à savoir, le plus important en fait, c'est si le déontologue de l'Assemblée nationale était au courant, comme l'exige la loi.
Non, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est de savoir si ça lui va bien,
si les épaules
tombent bien, si la coupe est agréable, si c'est serré à la taille, si le pantalon est
du sur-mesure.
S'il y a des chaussettes. Oui, mais alors après, il peut grossir, mon François Fillon, vous savez. Parce qu'il suffit quoi, une tournée en province, une tournée dans le sud-ouest, trois cassoulets, on rentre plus dans son pantalon. On connaît l'histoire, moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que François Fillon est à l'aise? Est-ce que ça gratte? Est-ce que ça se lave à 40? Est-ce que c'est du nettoyage à sec? Qui va payer les pressings? Qui en met les costards de Fillon au pressing? Est-ce que c'est lui qui va les chercher? Monsieur Fillon, le costume est prêt? Est-ce qu'il y a un truc en plastique? Est-ce qu'il
bien, dis donc, vous m'avez recousu mon bouton. C'est ça qu'on veut savoir. En tant que Français, qu'est-ce que je veux savoir, Thierry Paré? Je ne veux pas uniquement savoir le prix, je veux savoir l'entretien. Vous êtes taché, M. Fillon, là, vous avez de l'œuf. À tout de suite.
Je veux peut-être savoir aussi que plus de 40 ans après les faits, Illich Ramirez Sanchez dit Carlos, 67 ans, va être jugé pour l'attentat du drugstore Publicis, hein, du boulevard Saint-Germain à Paris. Son procès devant les assises s'ouvre ce lundi. Le Japon a rendu hommage ce week-end aux plus de 18 000 personnes tuées ou portées disparues lors du gigantesque tsunami consécutif à un tremblement de terre en mars 2011. Le Premier ministre Shinzo Abe a assuré que le gouvernement allait continuer d'accélérer la reconstruction des zones sinistrées, notamment à Fukushima, hein, encore largement contaminée après l'accident nucléaire. Tahrir al-Sham, coalition de groupes djihadistes, a revendiqué le double attentat contre des pèlerins chiites qui a fait 74 morts et 120 blessés ce week-end à Damas. Il y a tout juste 40 ans, la charte 77 perdait l'un de ses héros. Le 13 mars 77, après 11 heures d'interrogatoire policier, Jan Potočka, philosophe dissident tchèque, décédait à Prague des suites d'une hémorragie cérébrale. Il était membre donc de cette charte 77, un mouvement de lutte pour les droits de l'homme qui a joué un rôle fondamental dans l'anti-totalitarisme des années 70. Estimant dans les colonnes du journal du dimanche que la situation s'améliore mais que Paris n'est pas encore parfaitement propre, la maire de Paris, Anne Hidalgo, annonce 10 mesures destinées à lutter pour la propreté des rues parisiennes, allant d'une sensible augmentation des effectifs de nettoyage et de répression à la lutte contre les rats ou la multiplication des cendriers. Le chef français Michel Delburgo, plusieurs fois étoilé en France et à l'étranger, est décédé ce week-end à l'âge de 55 ans seulement des suites d'un cancer. Et c'est aussi un cancer qui a emporté ce week-end à Paris l'artiste chilien Angel Parra, figure de la diaspora de ce pays. Il avait 73 ans. Angel Parra a vécu 40 ans en France, qui était devenue d'ailleurs aussi sa patrie. Deux personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées hier en Argentine dans une bousculade lorsque plus de 300 000 spectateurs ont envahi la petite ville de Olavarria pour un concert du chanteur Indio Solari. Les concerts d'Indio Solari, qui a révélé l'an dernier qu'il était atteint de la maladie de Parkinson, drainent régulièrement des foules de fans de toutes les générations sur l'ensemble du pays. Mais là, personne ne s'attendait apparemment à autant de monde. Et puis le PSG est allé s'imposer 2-1 sur le terrain de Lorient hier soir en clôture de la 29e journée de la Ligue 1.
Alors, il faut revenir vraiment sur ces affaires vestimentaires. Je voudrais interviewer quelqu'un. Je sais que Christophe Méné est là en plateau. Ça nous fait très plaisir. Je voudrais qu'on le reçoive maintenant.
Oui, je suis là. Bonjour, Edouard.
Est-ce qu'il a droit à un générique? On reçoit quelqu'un, un générique qui marche très bien à cette heure. Christophe Méné, vous n'êtes pas spécialiste vestimentaire, vous n'êtes pas collectionneur de chaussures, vous n'êtes pas repriseur de chaussettes. Vous êtes un Français comme les autres qui lave ses jeans à 50 et le textile plus délicat à 30. Alors quand vous entendez que François Fillon a pour plusieurs briques de vêtements, vous ne mettez pas de jugement moral là-dedans, de même que vous n'étiez pas contre les chaussures de Roland Dumas ou les berloutis d'Aquino Morel.
Non, au contraire.
François Hollande,
je vous entends, oui. Je vous entends pas très bien, mais je suis tout à fait. En fait, je m'en fiche complètement.
D'accord, mais alors quand vous pensez, bon, le prix du costume ne vous gêne pas, mais tout le chemin vers le précis, qu'est-ce que vous conseillez pour un costume à une brique? Vous pensez qu'on est sur des matières quoi? On est sur des soieries? Vous pensez qu'il y a de la peau de caviar? Vous pensez
je sais pas, peut-être qu'il y a du cachemire, un petit peu, je pense, un peu de laine, certainement.
Oui. Et puis... Qui dit cachemire dit fragilité, donc c'est un costume que François Fillon ne peut pas porter sous la pluie, contrairement à François Hollande qui aimait les meetings sous la pluie. Donc François Fillon, s'il était élu président, serait le président du beau temps, du temps apaisé?
Du parapluie surtout, Edouard. Du parapluie.
Du parapluie.
Et oui, et
qui
oui.
Dit parapluie, dit porte-parapluie.
Forcément.
Donc un autre salaire, et ça vous choque.
Oui. Non, parce que ça crée un emploi, porte-parapluie de François Fillon. Moi je trouve qu'il va relancer l'économie grâce au porte-parapluie.
C'est ça, c'est à l'époque, dans les sociétés vont mal, on parle de porte-flingue, et quand les sociétés vont bien, on passe sur porte-parapluie.
Porte-parapluie, ce qui est le signe d'une société qui va bien. Voilà.
Thomas Baumgartner, vous qui êtes un observateur de l'entourage des hommes politiques,
oui.
Bonjour.
Bonjour.
Que ça vous rassure de se dire que le personnel de l'Élysée, ça ne sera plus des consultants en images, mais des porte-parapluies pour ne pas que le cachemire de M. Fillon soit abîmé?
Non, je pense que c'est effectivement rassurant et la réponse ne le sera pas moins d'ailleurs. Je pense que si on considère que ça peut être un modèle, on peut imaginer 25 millions ou 30 millions de Français avec 30 millions de porte-parapluies à côté d'eux, et ça s'appelle le plein emploi, Edouard.
Je comprends bien. Donc François Fillon est un homme de passion sage, hein. Passion pour les costards, il a aussi une passion pour l'automobile. Est-ce que vous avez peur pour François Fillon quand il prend le volant?
Pour le volant, je ne sais pas, mais c'est pour les chaussettes que j'ai peur maintenant, parce que petit à petit, je pense que chaque, chaque élément de ses vêtements, de son habit global, fera l'objet d'articles et de fuites dans la presse.
Et va finir en slip aussi.
Quand on arrive, voilà. Alors, merci Thierry. On arrive au slip et c'est la chute. Voilà.
Il pourrait se porter un tout petit chien sous le bras. Vous voyez, comme font les gens, vous savez là, ils se mettent des petits chiens sous les bras, arriverait comme ça, il serait mignon avec sa petite moumoute.
Puis il a le droit de se faire offrir des costards. Édouard, vous m'aviez offert un pull une fois.
Le chien vécu comme un vêtement. Alors, ne revenez pas à ça. Le chien comme ultime vêtement, je trouve ça très intéressant. Un chien peut faire un très beau gant. Si on a deux chiens, ça fait deux gants. Et puis, ce que je trouve formidable, c'est Thierry Paret, c'est la France. Ce qui nous intéresse, c'est le slip. Normalement, le slip à l'heure, il y avait une belle reprise d'antenne, une musique, une pub de la classe.
Et nous sommes avec Édouard Baird, quelque part dans le monde. Édouard.
Mettez-moi un fond musical qui me fasse rêver, s'il vous plaît. Je suis toujours à Johannesburg. Comme ici, comme ailleurs, il y a ceux qui se réveillent en se demandant si on prend du café ou du thé, ceux qui se demandent si le lait est livré, si le chat ne l'a pas bu, ceux qui se demandent ce que fait François Hollande à cette heure-là à l'Élysée. Il y a beaucoup de questions très tôt le matin, ceux qui se demandent dans quel costume va rentrer François Fillon et de quel va-t-il sortir. Si on sort du même costume dans lequel on est rentré le matin, c'est que ça va encore pas mal. Alors, qui est en plateau aujourd'hui et qui en a plein la gueule, qui a envie de lâcher une très belle colère? Méné,
oui,
Thomas
Bongarter,
Tito.
On a tous des informations.
Ouais, on a tous des trucs.
Vous êtes chaud, je vous sens.
On est chaud, Edouard.
Moi, j'ai le truc d'un indique, parce que maintenant, j'ai des indiques que je rencontre au bistrot. Oui. Alors, samedi sera à Drouot une vente spéciale sur des objets des Beatles. C'est un collectionneur qui s'appelle Jal Valkov qui vend des vinyles très rares qui ont été pressés au Japon, etc. Voilà. Donc, samedi, personne ne le sait encore, ni la presse, ni Thierry Paré, ni personne. Je suis le premier.
Oula.
Donc, un mec qui serait obsédé par les Beatles devrait se présenter dès maintenant rue Drouot à Paris dans le 9e arrondissement.
Voilà,
à la salle de vente aux enchères.
À la salle de vente samedi prochain.
Prenons quelqu'un qui s'en foutrait, par exemple. Que doit faire cette personne?
Oh, il y a des bars en face, il va au bistrot, il peut aller au restaurant.
Il y a plein d'activités. Quand on est intéressé par quelque chose, c'est formidable parce qu'on a un endroit où aller, mais l'avantage de se foutre de tout, c'est que le monde vous ouvre ses portes.
Eh bien, ouais, voilà, alors, c'est ça, on peut aller n'importe où.
Voilà. Oui. D'autres choses ce matin?
Oui, moi j'ai une info scientifique dans 20 minutes sur le site de 20 minutes ce week-end. Une information capitale. Donc c'est scientifiquement prouvé, les cookies sont meilleurs trempés dans le lait. Alors, c'est en tout cas ce qu'a prouvé un professeur de chimie culinaire, monsieur Matt Hartings. On sent que le mec a bossé. Donc selon lui, ce serait grâce au lait qui agit directement sur la composition chimique du cookie, atténuant certaines saveurs trop prononcées au naturel. Voilà. Et ce qui est bien sur Internet, c'est que les gens peuvent laisser des commentaires et là, personne n'a laissé de commentaires. Donc, ça prouve l'importance de l'info, Edouard.
C'est par-delà les mots, mais peut-être que... Est-ce que ce chercheur a des dents?
Non, justement.
Ça n'est pas dit, parce que peut-être que c'est aussi lié à ça, c'est que le cookie, grâce au lait, se transforme en une sorte de sirop qui coule directement dans la bouche sans passer par la face dent, comme on dirait mon ami Patrick Bessard, dit le pirate, qui a lui-même des quantités de dents. Si on peut transformer tout aliment dans une sorte de soupe de gruau, c'est l'arrivée vers le grand âge aussi. Je ne suis pas sûr qu'un jeune qui veuille faire ses dents soit content de cette nouvelle.
Non, on peut même le manger à la cuillère, c'est l'avantage. Thomas, tu veux
Thomas, t'as des cookies.
Je vais me permettre de ne pas réagir. Par contre, dans le Figaro de ce matin, un grand portrait de François Rollin, humoriste décalé, c'est écrit dans le Figaro. L'article commence de la manière suivante. « Je passe ma vie en vacances, elle la gagne bien, je m'organise comme un paresseux et travaille vite, très vite. » Donc c'est une citation de François Rollin. François Rollin est une Rolls-Royce, c'est Vincent Dedienne, le comédien qui travaille avec lui, qui le dit. « Il aime les choses douces et inoffensives, les enfants, les animaux, l'automne, la Suisse, la mer, la cuisine, dit encore Vincent Dedienne à son propos. Je propose que dès demain, puisque François Rollin tous les mardis est dans plus près de toi, qu'on vérifie toutes ces informations en sa compagnie pour voir si la presse a fait son travail. »
Oui, ce qui m'inquiète, Thomas, est-ce qu'à votre avis, on pourra encore toucher François Rollin au même prix à la suite de cet article?
Est-ce qu'il continuera à nous guérir en nous touchant sur nos plaies? Ça, c'est la question
Oui, enfin, voilà, moi, je suis dans des choses un petit peu
terre à terre. Si
est-ce que ces tarifs
vont
augmenter comme un chef opérateur qui vient de recevoir un César et qui revoit ses tarifs à la hausse? C'est ça qui m'inquiète.
On ne peut pas aller plus haut, vous le savez, on en a déjà discuté en dehors de l'antenne.
Déjà.
De toute façon, on peut faire comme si on ne l'avait pas lu, cet article, comme s'il n'existait pas. On ne l'a pas lu, quoi. On ne le connaît pas.
Mais qui lit le Figaro de toute
c'est
façon.
Ça, de toute façon, là, c'est réglé. Moi, j'ai une belle histoire à vous proposer ce matin. C'est mieux qu'en France, c'est l'Inde. En Inde, il y a des candidats aux élections, en l'occurrence régionales, dans l'État qui s'appelle Uttar Pradesh, gros État, hein, c'est la moitié de la France quand même. Un candidat donc qui s'est présenté, il s'appelle Mukhtar Anshari, et sa particularité, c'est qu'il est en prison depuis 2005. Voilà, donc il s'est présenté, mais surtout, il a gagné. En fait, il a gagné. C'est la quatrième fois qu'il est reconduit, et donc il mène campagne de sa cellule. Alors, je sais pas comment il réussit à maintenir son mandat. Comment il fait pour son mandat, je ne sais pas, du coup il doit le faire de sa prison aussi. Et donc voilà, et il paraît que dans cet état, Uttar Pradesh, qui est donc encore une fois un gros état, il y a 45% des membres de l'assemblée de cet état, 45% qu'ont eu affaire à la justice à un moment donné ou à un autre, soit des viols, des enlèvements, des meurtres même carrément, comme ce Mukhtar Anshari. Voilà.
Il perd bien pour les notes de frais pour tout ça.
Vous lui, son costume, par contre, on ne le fait pas du toucher. Hein, c'est pas, il est ouais. tranquille, lui, pour son ouais. costume, c'est tout.
Vous
c'est cool.
connaissant, voilà, je pense que vous cherchez à créer un parallèle comme ça, inconscient, chez les auditeurs entre la France et l'Inde. Je pense en plus, Thierry Paret, que vous êtes un escroc, puisque j'écoute votre émission et à 7 heures moins le quart, vous avez déjà donné cette information.
Ah oui, ouais, je ne l'ai pas donné pareil, juste mais c'est vrai. Oui, mais parce que ce ne sont pas les mêmes auditeurs.
Ce
ne sont
pas les mêmes mots. Ouais. Nous, on ne savait pas, nous.
J'ai changé trois voyelles. Non, mais c'est pas vrai, Thierry. Marie Misset est venue.
Elle
n'est pas là.
Elle est à faune, quasiment. On la garde pour 8 heures, pour la revue de presse de 8h20.
On va la masser.
Vous lui travaille la voix avec des médicaments, des piqûres. Il y a beaucoup d'héroïsme ce matin.
Mais il y a Charlène qui est là.
Charlène, qu'est-ce que vous avez vu, chère Charlène, ce matin?
Alors moi, j'ai une info qui n'est pas dans le journal, parce que ça me concerne directement. Ce week-end, le ciel parisien était très dégagé. Et du coup, j'ai pu pour la première fois observer Jupiter au télescope. Et on voyait très bien Jupiter, les bandes de Jupiter et ses trois lunes. Et c'était magnifique.
Comment on trouve Jupiter dans le ciel?
On cherche. En fait, ça brille beaucoup. On croit que c'est une étoile au début. Et puis après, on est accompagné de quelqu'un qui s'y connaît un petit peu et qui nous dit ça, en fait, c'est Jupiter.
D'accord, mais si Jupiter atterrit à Orion-Roissy, c'est effectivement un avion.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà, non.
C'était bien de le préciser.
Ouais.
Autre information, Dominique Régnier est en studio, je pense qu'on pourra le retrouver dans un petit instant. Mais d'abord, Edouard, on a un beau stock de pubs pour vous, si ça vous va.
Ça fait toujours plaisir.
Nova. Plus près de toi.
7h, 9h.
Il m'en reste un peu, je vous le mets quand même.
Alors, bonjour.
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 Ne me laissez pas la parole en sortie de spot, Armel M. Vous rendez bien compte que je suis là au milieu de la brousse. J'ai fait un système pour être en ligne avec vous, entièrement bricolé, avec des feuilles, avec des ficelles, avec des morceaux de jacaranda, avec des queues de tigre. Vous ne pouvez pas me donner cette responsabilité. Je sais qu'on est avec Dominique Régnier et ça me fait plaisir.
Bonjour Edouard.
Bonjour Dominique Régnier. Vous vous inquiétez de l'abstention que vous subodorez sur les élections présidentielles à venir?
Oui, la campagne étant ce qu'elle est, elle n'a pas lieu, elle est d'un intérêt à peu près nul, décidément. Et donc on peut redouter une abstention particulièrement forte avec des conséquences qui sont un peu compliquées. Simplement pour vous dire, Edouard, que l'abstention depuis qu'il existe une élection présidentielle, l'abstention depuis 1965, donc, en moyenne au premier tour, est de 20%, 19,7% exactement. Mais il y a eu un moment où l'abstention a battu tous les records en France, c'est en 2002 où l'abstention a dépassé les 28%. Et il est certain que le niveau historique de l'abstention en 2002, plus de 28%, est l'une des causes de ce second tour épouvantable, puisqu'il avait en réalité mis fin à tout débat et à tout choix véritable. Or là, nous avons aujourd'hui une situation qui, par bien des égards, nous amène à battre de nouveaux records. On ne le sait pas, bien sûr, mais lorsque les sondeurs mesurent aujourd'hui le projet de s'abstenir, on ne sait pas comment le désigner, ce n'est pas vraiment un désir. Si je prends l'indicateur construit par l'IFOP vendredi dernier, on était à 36,5. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura 36,5% d'abstention, ça veut dire que c'est ce qui est mesuré aujourd'hui. Et si nous avons un chiffre de ce type, ça veut dire premièrement qu'on ne sait pas quels seront les effets sur le choix électoral des participants, puisque ceux qui disent aujourd'hui qu'ils vont voter au sondeur, par exemple, aussi bien en partie n'iront pas et s'abstiendront. Donc ça peut modifier profondément les attentes qui sont dessinées par les sondeurs, les pronostics en quelque sorte. Et puis, si ce niveau d'abstention était vérifié, ça signifierait que le second tour, non seulement serait un second tour sans choix, puisque on peut considérer comme raisonnable, hélas pour l'intérêt, un second tour entre un candidat X et Marine Le Pen, donc une élection sans choix, en tout cas si c'était confirmé, on aurait à la fois un désintérêt de premier tour marqué par l'abstention et un second tour sans véritable débat marqué dans cette hypothèse par une compétition entre un candidat, entre guillemets, je dirais de gouvernement et un candidat populiste. Donc c'est tout ce qui se met en place pour une élection qui, décidément, nous est promis comme ratée. Et quel que soit l'élu ensuite, évidemment, une grande difficulté, vous pouvez l'imaginer, à gouverner pendant 5 ans avec une base démocratique aussi faible, aussi contestée dès le départ.
On peut parler de Dominique Régnier, on peut parler d'une forme de défiance programmée si ça continue comme ça. Parce qu'il y a ce côté, ce que vous disiez à l'instant, le côté le deuxième tour est joué, on sait, on voit, enfin, il y a quelque chose d'inscrit dans le marbre par les sondeurs, et donc comme en 2002, il y aura l'effet que vous pouvez lister. Et puis, il y a cette question d'absence de débat autour des programmes qui joue sur cette question de l'abstention.
Voilà, on ne débat pas du tout des programmes, on ne débat pas de l'Europe. Il se passe des choses en Europe très importantes en ce moment, avec des élections néerlandaises. On n'en parle pas, ce n'est pas un sujet de débat et c'est un tort. On ne parle pas des grandes questions liées à l'énergie, la question de l'emploi, la question de l'éducation. Enfin, il y a 1000 questions qui sont laissées de côté, qui, étant laissées de côté, au fond, ne laissent surnager que des questions soit très politiciennes, soit très anecdotiques ou un peu étranges, un peu décalées. Et là, ça n'a d'intérêt que pour, je ne sais pas moi, 2-3 millions de Français qui sont passionnés par la chose publique à ce point-là. Mais il y a en France plus de 45 millions d'électeurs.
Et il paraît qu'une 60% aujourd'hui, selon les différents sondages, savent, des électeurs ne savent, disent aujourd'hui, pas être sûrs de leur vote. Ce qui, ça ajoute encore à la volatilité.
Absolument. Ils déclarent beaucoup, en majorité, ne pas être sûrs de leur vote. Et ils peuvent changer de vote d'ici là, surtout changer de décision de participer ou de ne pas participer. Et encore une fois, j'ai eu l'occasion de le dire ici dans une discussion précédente avec Edouard. Encore une fois, la reconnaissance pour la première fois du vote blanc depuis 2014, pour la première fois une présidentielle, fait qu'une partie des électeurs qui vont décider de passer de l'abstention finalement à la participation, le jour du vote, peuvent aussi bien décider de passer de la participation exprimée, je choisis un candidat, à une participation non exprimée, je vote blanc, ce qui là aussi affaiblit la base électorale des élus.
Il faut arrêter Dominique de penser au deuxième tour tout de suite, en fait. Il faut.
Oui, ça a des conséquences tout de suite.
Pour vous, les États-Unis, où souvent il y a 40% d'abstention, voire plus, où parfois un président est élu en ayant moins de voix que l'autre par le système des grands électeurs et des régions, c'est encore une démocratie ou ça devient bizarre ?
Alors, deux choses, Edouard. Aux États-Unis, le système indirect, enfin le système à deux niveaux que vous avez évoqué, qui peut donner un résultat où le vote populaire est du côté du candidat qui perd, c'est le cas d'Hillary Clinton, même si c'est un cas exceptionnel dans l'histoire des États-Unis, c'est un système qui a été fabriqué pour ça. Non pas pour produire un résultat paradoxal, mais pour détacher l'expression du choix populaire de la désignation directe d'un chef. Paradoxalement, ça a été fait pour éviter d'avoir un président populiste. C'est raté, mais c'est la première fois que c'est raté depuis la naissance du système. Donc c'est plutôt un système qui a montré sa performance. On a voulu, les pères fondateurs, comme on dit aux États-Unis, ont voulu que le peuple désigne des représentants qui désignent le président pour qu'il y ait une espèce de chambre de refroidissement des passions démocratiques, en quelque sorte. Donc ça, c'est un mécanisme tout à fait contrôlé. Et l'abstention aux États-Unis, qui est un effet importante, on s'en rapproche, en fait, nous. En France, il y a une abstention qui... Alors, l'élection présidentielle, c'est l'élection reine. Hein, mais il y a une abstention qui tend à monter dans toutes les démocraties, d'ailleurs. Un désintérêt qui augmente, un retrait qui augmente. Et puis... quand on fait le total, si on prend en considération ceux qui devraient être inscrits sur les listes électorales et qui ne sont même pas inscrits, ce qui fait qu'on ne les compte pas comme abstentionnistes, on arrive à des niveaux qui ne sont pas si éloignés que ça de nos amis américains.
Abstention colère ou abstention indifférence, ces deux abstentions. Vous-même, Dominique Régnier, vous n'irez pas pêcher à la ligne le jour des élections.
Ah non, moi je mets à titre personnel un point d'honneur à me déplacer, à aller voter, y compris lorsque je ne suis pas content. à faire un vote nul ou blanc, ce qui jusqu'ici n'était pas différencié, désormais le sera, ce qui est une, moi, ce que j'appelle l'abstention démocratique, l'abstention civique, où je me déplace pour dire que je ne suis pas content de l'offre qui m'est proposée.
Merci Dominique Régnier. On rappelle juste aux auditeurs, on le rappelle, le jour de l'élection, n'écrivez pas sur votre bulletin « Vas-y champion », ça ne renforcera pas votre voix, mais au contraire, ça l'annulera.
Alors, exactement. Pas de...
Vas-y, on est avec toi. Non, 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 rien d'écrit. On met son petit papier, on met bien l'enveloppe, c'est après qu'on ira boire un coup et écrire des conneries sur les murs. Salut, bonne journée.
Salut,
Dominique.
Au revoir, bon travail.
À 7h34, les infos, Thierry Paré.
Plus de 40 ans après les faits vénézuéliens.
Oui.
Ouais.
4 minutes de retard, on se moque de l'auditeur.
Oh, on est bon là. Plus de 40 ans donc après les faits, le vénézuélien Ilich Ramirez Sanchez Di Carlo, 67 ans, va être jugé pour l'attentat du drugstore Publicis du boulevard Saint-Germain à Paris. Son procès devant les assises s'ouvre ce lundi. Cet attentat, il fit 2 morts et plusieurs dizaines de blessés en 1974. Alors Carlos a déjà été condamné à 2 reprises à la réclusion criminelle à perpétuité pour des crimes commis en France. Le torchon brûle entre Ankara et La Haye. Après le refus des Pays-Bas d'accueillir 2 ministres turcs, la Turquie hausse le en promettant des mesures de rétorsion dénonçant un comportement rappelant le nazisme et le fascisme. Recep Tayyip Erdogan s'est lancé dans une guerre des mots particulièrement acerbe contre les Pays-Bas. Ils auront naturellement à en payer le prix et aussi à apprendre ce qu'est la diplomatie, a asséné le président turc lors d'un discours à Istanbul. Un ami m'a offert des costumes en février et alors, se défend François Fillon dans les colonnes du quotidien Les Échos ce matin. C'est la nouvelle polémique concernant le candidat de la droite. Il s'est fait offrir pour près de 50 000 euros de vêtements. Reste à savoir si le déontologue de l'Assemblée nationale est au courant, comme l'exige la loi. Le Japon a rendu hommage ce week-end aux plus de 18 000 personnes tuées ou portées disparues lors du gigantesque tsunami consécutif à un tremblement de terre en mars 2011. Le Premier ministre Shinzo Abe a assuré que le gouvernement allait continuer d'accélérer la reconstruction des zones sinistrées et notamment Fukushima, encore largement contaminée après l'accident nucléaire. Tahrir al-Sham, coalition de groupes djihadistes, a revendiqué le double attentat contre des pèlerins chiites qui a fait 74 morts et 120 blessés ce week-end à Damas, la capitale syrienne. Estimant dans les colonnes du journal du dimanche que la situation s'améliore mais que Paris n'est pas encore parfaitement propre, la maire de Paris, Anne Hidalgo, annonce 10 mesures destinées à lutter pour la propreté des rues parisiennes, allant d'une sensible augmentation des effectifs de nettoyage et de répression à la lutte contre les rats ou encore la multiplication des cendriers. Le chef français Michel Delburgo, plusieurs fois étoilé en France et à l'étranger, est décédé ce week-end à l'âge de 55 ans seulement. Il est mort des suites d'un cancer et c'est également un cancer qui a emporté ce week-end à Paris l'artiste chilien Angel Parra, figure de la diaspora de ce pays. Le PSG est allé s'imposer 2-1 sur le terrain de Lorient hier soir en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Et puis la météo, ce sera mieux que samedi, mais moins bien qu'hier.
C'est vraiment, heureusement qu'on a un spécialiste météo.
Exactement.
Je voudrais rendre un petit hommage à Pierre Bouteiller, aussi une grande figure, une grande voix de la radio et qui est mort ce week-end. C'était vraiment cette histoire de costume de Fillon est fascinante. Où commence le cadeau, où finit le pot de vin? Je comptais vous rapporter des t-shirts à l'effigie Nelson Mandela de là où je suis, mais je vais y renoncer parce que je sens que ça serait de la manipulation. Tito, quanto, comme est la météo?
Alors aujourd'hui, il pleut et il neige dans les Pyrénées. C'est chouette pour ceux qui font du ski ou ceux qui ont des parapluies. Ailleurs, il fait beau, ou bien le temps est un peu couvert, on se cachera derrière les nuages. Les températures seront à Agen de 4 à 17, à Amiens de 1 à 13, Bordeaux de 7 à 16, Brest de 6 à 13, Corté dans la Corse de 2 à 16, Évreux de 1 à 13, on accélère parce qu'on a moins de temps, Limoges de 6 à 15, Metz de 2 à 15, Nantes de 3 à 16, Reims de 1 à 16, Saint-Étienne de 3 à 15 et Oran de 9 à 16. La 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 la.
Quand vous dites on a moins de temps par rapport à quelqu'un qui n'habiterait pas le sud-ouest,
c'est
l'équivalent de moins. Le S final, c'est votre côté. Dès qu'on franchit l'Aquitaine, on a le droit de dire moins.
Oui, on a le droit de dire moins. Ouais, autrement, ailleurs, c'est pas moins, c'est un moins. On n'a pas de S.
Ah oui, c'est déjà moins chantant. Vous avez raison, garde le moins. À tout de suite.
Oui.
Jack.
Oui.
Vous êtes
on est à une terrasse de café, rue Coquillère, et je suis avec Grégory et Jo. Qui était sous un infrarouge, on va pas dire au soleil, mais au chaud. Derrière eux, il y a une baie vitrée et puis il y a quelqu'un qui est en train d'étudier ses impôts avec un téléphone portable. Il doit faire des petits calculs. Et Jo, vous racontiez que vous allez faire le bar en face, le chantier du pavillon Baltar, qui est un bar, et vous dites un chantier qui est bien, c'est un chantier où tout le monde finit en même temps.
Oui. Mais pourquoi? La question, c'est quoi? Moi, c'est Greg. Oui. Non, on parlait du travail par rapport à la condition de travail en général. Un chantier bien réussi, c'est un chantier qui permet de se faire une bonne ambiance et que tout le monde finisse en même temps dans un bon esprit. Voilà.
La vie, elle est simple, si on veut la rendre simple.
Oui, la vie est simple si on veut se la rendre simple, mais bon, c'est peut-être pas forcément le goût de tout le monde, mais bon, moi j'essaie de la rendre simple. Voilà.
Alors Greg, bonjour, j'ai compris bonjour. Que c'était le chantier d'un bar ou d'un restaurant. Est-ce qu'effectivement, il y a un risque que toutes les boissons soient prêtes, que les clients commencent à arriver alors que les chaises ne soient pas terminées et que le plancher n'y soit pas? Là, effectivement, ça ne se passerait pas bien.
Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, non. Non,
je cherche à imaginer des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a déjà les toilettes, les gens s'en servent alors que l'endroit n'est pas ouvert. Donc il faut vraiment être là en même temps, quoi.
Ouais, il faut que tout le monde soit présent. Dans un bon
esprit. Vous êtes sur... C'est quoi votre corps de métier?
Moi, je suis menuisier, en même temps, je gère tout le monde.
Ah oui, donc vous êtes chef de chantier menuisier, donc vous avez refait tous les bars, toutes les cloisons?
Non, pour l'instant, on démarre, on vient de finir la démolition.
Alors ça va...
Pardon ?
C'est très beau là. C'est dans les halles, en face des anciens pavillons Baltar, à côté de la Bourse du Commerce.
En face de la Bourse du Travail.
Alors, il est comment ce jardin des halles ? Il est terminé ?
Ah, presque fini, oui. Il est beau.
Comment on pourrait le décrire aux auditeurs, ce nouveau jardin parisien ?
Un petit havre de paix, on va dire. Non, c'est bien fait ce qu'ils ont fait. Non, c'est bien. Il y a beaucoup de verdure, il y a des espaces pour marcher. Non, c'est pas mal fait. C'est très bien.
C'est bien fichu, on y emmènerait ses enfants, ses animaux, ses femmes, ses maisons, ses maris.
Ouais, non, sincèrement, c'est un petit poumon en plein centre, non, c'est accueillant et ça casse un petit peu le béton. C'est pas mal.
Vous disiez, vous, qu'il n'y a pas sur un chantier, pas de servitude, on fait confiance à tout le monde et ça marche mieux?
Bah, un bon chantier réussi, c'est quelque part où il y a de la communication et on laisse croire, entre guillemets, la possibilité qu'on peut tous s'entendre et avancer dans le même sens. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef, il y a des gens de bonne volonté, et là on peut avancer, c'est tout. Chacun prend sa responsabilité de ce qu'il fait. C'est clair ?
Ça me va, merci beaucoup cher Grégoire. Ouais. Ça me va, cette vision claire et nette du travail ensemble. Ensemble, le maçon, le menuisier, la couturière, le repasseur, le chanteur, le comédien, le jardin qui est prêt, le chien qui va l'épicer déjà, tout s'enchaîne bien. Excusez-moi, j'ai des images très étranges parce que pendant que vous me parlez, je vois arriver 40 figurants de ce film sud-africain qui viennent de passer en tenue 1970. Donc je suis transporté sur plusieurs époques à la fois, entre Jack Souvent qui est au Hall, le studio qui est caché quelque part dans Paris, cette correspondance en Afrique du Sud, cette antenne de Lyon qui vient d'ouvrir. Je vais prendre deux cachets. À tout de suite.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baer.
Ça me rappelle rien.
De 7h à 9h, plus près de toi.
Edouard Baer est en Afrique du Sud, il est en duplex avec nous. Nous sommes en studio avec Thomas Bob Gartner et tous nos invités, des milliers d'invités.
Tous nos invités et notamment, lui il n'est pas en studio, il est en ligne avec nous, mais on est très contents. C'est Stéphane Damien Tissot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Sans froid, dont le numéro 5 vient de sortir et qui en même temps célèbre son premier anniversaire. On parle ici de temps en temps des revues, qui est un genre qui connaît une nouvelle jeunesse depuis à peu près, 5 ans et qui voit de nouveaux titres apparaître régulièrement. C'était votre cas il y a un an, donc là voilà, ça tient, on peut dire ça. Sans froid, cette revue dont le sous-titre est Justice Investigation Polar, cinquième numéro. Est-ce qu'on peut dire qu'avec ce triptyque-là, Justice Investigation Polar, une des particularités de votre vue, c'est de se situer à la fois dans les histoires vraies, dans le réel, et puis dans la fiction, et de passer de l'un à l'autre avec ce parallèle qui est justement la question de la justice.
Tout à fait, en tout cas c'est comme ça que nous on a réfléchi à Sang-Froid. D'ailleurs le titre est assez évocateur, puisque c'est une célèbre œuvre de Truman Capote qui mêlait justement un petit peu ce journalisme littéraire.
De Sang-Froid, oui, la non-fiction comme on dit. Ouais.
De la non-fiction, voilà, tout à fait. Et nous, c'était vraiment quelque, enfin, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait. Parce qu'on trouve qu'il y a des vraies passerelles, finalement, entre les deux univers. Et donc, c'est comme ça qu'on a imaginé Sang-Froid. Donc, une première partie, donc, sur la justice et l'investigation. Donc, des histoires vraies, avec des portraits, des enquêtes, des révélations. Un gros dossier dans chaque numéro. Et donc, une partie beaucoup plus fictionnelle, avec un sommaire particulier pour que le lecteur puisse bien s'y retrouver et sache que là, il rentre dans la fiction, avec une nouvelle, des portraits, des interviews, des critiques de polar. On essaye, voilà, de lui apporter pas mal d'informations pour qu'il sache quoi choisir chaque trimestre en polar.
Et vous, vous préférez quoi, le réel ou la fiction ?
C'est difficile comme question. je suis moi-même journaliste judiciaire. J'ai travaillé pendant 5 ans dans la presse judiciaire. Donc forcément, j'ai mes habitudes dans ce genre-là. Mais je suis aussi un gros lecteur de polar. Encore plus depuis un an et demi. Donc question difficile, mais je choisirais peut-être le réel parce que c'est plus mon quotidien, on va dire.
Mais là, il y a du réel et puis il y a des questions historiques. Alors on va peut-être faire le parallèle avec le film qui est en train de tourner, Edouard, parce qu'il y a, un dossier sur Focard, Jacques Focard, le monsieur France-Afrique et des bases œuvres du gaullisme, qui espionnait François Mitterrand dans les années 65 quand il s'est présenté à la présidentielle pour la première fois. Là, c'est un historien qui rédige ça, l'excellent historien Jean-Pierre qui ouvre des archives qu'on pensait pas forcément ouvrables un jour, celles de Focard.
Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose en fait qu'on n'avait pas forcément pensé au début de Sang-Froid, mais c'est quelque chose qui, au fil du temps, s'institutionnalise entre guillemets. On a une révélation historique dans chacun de nos numéros. Pour ouvrir finalement notre revue. Et donc là, oui, ce trimestre, nous pensons, oui, sur les écoutes des RG et de Focard, donc sur François Mitterrand. Il faut un petit peu rappeler le contexte peut-être de l'époque. On est juste avant la campagne présidentielle et Mitterrand est face à De Gaulle. Et donc le pouvoir gaulliste finalement commence un petit peu à se renseigner et donc il s'intéresse particulièrement, Jacques Focard et Hergé s'intéressent particulièrement à la relation que Mitterrand entretient avec une jeune étudiante à l'époque, Anne Pinjot. D'ailleurs son nom est assez mal orthographié sur les premières écoutes, mais on se rend compte rapidement, parce que c'était les moyens de l'époque aussi, hein, on n'a pas les mêmes moyens que maintenant, que la ligne était très mauvaise, qu'il y avait des grésillements, des choses comme ça qui s'entendaient, et donc finalement les Hergé sont rapidement percé à jour et ils n'entendent finalement que peu de choses, que peu de confidences, en tout cas politiques. Mmh. Et par contre, ça en dit beaucoup sur l'atmosphère de l'époque, sur cette relation entre Anne Pinjot et Mitterrand.
Et puis sur la relation entre Focard et Mitterrand, une haine qui va durer en fait jusqu'à la fin de leur vie. C'est aussi raconté dans cet article de Jean-Pierre Bas. Il y a d'autres articles, d'autres approches. Du côté fiction, il y a une nouvelle d'Olivier Norek, il y a une interview de Philippe Kerr, une interview de Jérôme Leroy, qui sont des signatures, parfois policiers eux-mêmes d'ailleurs, du polar actuel. Et puis il y a une enquête sur, là c'est de l'investigation pour le coup, hein, c'est le deuxième point du triptyque justice-investigation polar, sur l'art africain qui fait l'objet d'un trafic international et de placement et d'évasion fiscale, de support d'évasion fiscale.
Oui, c'est ça. En fait, notre journaliste, donc Anton Rouget, travaille depuis plusieurs mois sur le listing des Panama Papers. Et il a notamment percé à jour de curieux montages financiers liés à l'art africain, donc qui passent par des sociétés domiciliées à Singapour, au Panama ou aux îles Vierges. Et on se rend compte que 44 personnes se trouvent dans ces listings. On a des galéristes, des hommes d'affaires, des professions libérales. Et voilà, on trouvait ça très intéressant, parce que c'est vrai que d'habitude, on trouve plutôt dans ces montages financiers des montages liés à l'art contemporain. Mais on se rend compte depuis quelques années que ce business de l'art africain est aussi en plein boom finalement. Pour vous prendre un exemple, en décembre à Paris, lors d'une vente aux enchères, il y a deux sculptures en provenance de la République démocratique du Congo qui ont trouvé preneur à plus de 2 millions d'euros, ce qui est assez fou par rapport au business de l'art africain de ces dernières années. Un des interlocuteurs de Sang-Froid nous expliquait qu'on est parfois sur des taux d'intérêt annuels à plus de 14%. Donc c'est énorme.
Oui, c'est comme ça qu'on parle d'art.
Tout à fait.
Bonjour monsieur, ici l'Afrique du Sud. Donc en fait, traditionnellement, l'art contemporain sert de refuge, ou au moins de façon de blanchir l'argent.
Non, bien au contraire, c'est pas ce qu'on dit, hein, mais c'est vrai que ça peut arriver. En fait, et ce qu'on nous expliquait dans cette enquête, c'est que finalement, on a recours maintenant pour justement faire ce type de montage à des secteurs d'activité qui ne sont pas forcément dans les radars, et l'art en est un.
Et vous expliquez d'ailleurs dans l'article, enfin Anton Rouget explique dans l'article qu'il est assez simple finalement de faire passer des éléments d'art primitifs africains pour de l'artisanat, donc ça échappe au radar, ça échappe aux douanes.
Et après, une fois que c'est rentré dans la boucle, c'est très difficile de savoir d'où ça vient, d'où ça provient, et ça aide finalement à ce type de pratique.
Stéphane Danotissot, je rappelle, vous êtes rédacteur en chef de cette revue donc de Sang Froid. Il y a aussi un prix Sang Froid qui est lancé ces jours-ci, un prix polar, c'est ça?
Tout à fait. En fait, on va récompenser d'ici à une petite année un auteur de polar qui n'a jamais encore été publié dans une maison d'édition. Donc, toutes les personnes qui ont envie d'écrire, qu'elles n'hésitent pas à nous envoyer leurs manuscrits et on se fera un plaisir de les lire et peut-être qu'on aura parmi eux le futur vainqueur de ce prix.
La revue Sang Froid numéro 5, donc joyeux anniversaire, premier anniversaire.
Merci.
Numéro 5, printemps 2017, c'est en ce moment en kiosque. Justice, investigation polar, c'est édition Nouveau Monde. Merci à vous.
Merci bien, bonne journée.
Merci et merci à Thomas Baumgartner qui a réussi lors de cette interview, elle a commencé d'une façon assez artisanale avec un vrai savoir-faire de journaliste, de connoisseur, hein, quelqu'un qui fait bien son métier, qui aime la belle ouvrage avec les mains calleuses, avec la voix usée. Et puis tout à coup, il y a eu de l'art qui a été l'inspiration, parce que l'art, c'est les moments d'inspiration, les moments où on s'échappe à soi-même, où
la transcendance.
On devient plus grand que soi-même. Oui, oui, il y a eu Dieu en vous à certains instants.
Bon, on l'a partagé.
Il rougit un petit peu.
C'est le bronzage.
7h-9h, plus près de toi. Plus près de toi.
7h-9h.
Mais c'est beaucoup trop court.
Amaury, c'est toi l'aîné, en fait.
Oui.
T'as combien d'années de plus que Baudouin?
3.
3 ans de plus?
Et demi.
3 ans de plus.
3,5.
Donc toi, t'as 3,5. Donc lui, il a 5 ans?
Oui. Moi, j'ai 8
ans. Et vous jouez quand? Et vous jouez quand même ensemble?
Oui.
Tu veux lui poser des petites questions pour nous le faire connaître? Pose-lui des questions. Qu'est-ce que tu pourrais lui demander? Vas-y, regarde-le, pose-lui des questions, si ça va. Ah, s'il est content, tu peux lui poser des questions. Fais comme on fait à la radio ou à la télé.
Je ne sais pas comment...
Qu'est-ce que tu pourrais lui demander, tu crois? Qu'est-ce que tu pourrais lui demander s'il connaît une chanson?
Oui.
Demande-lui alors.
Est-ce que tu connais une chanson? Si tu connais, si t'en connais une, hein? Non. Si. T'es trop timide.
Il est trop timide, c'est laquelle qu'il connaît?
Ça s'appelle Le Chapiteau en couleur.
Le Chapiteau en couleur?
Oui.
Ah, je la connais pas, moi.
Bah, si.
C'est bien ça, Le Chapiteau en couleur? Oui, mais il fait comme souvent à la radio, c'est-à-dire qu'il fait des gestes au lieu de parler, évidemment. Non, il n'a pas envie de chanter. Et toi, ce n'est pas une chanson que tu as prévue aujourd'hui, c'est un poème?
Oui.
Qui s'appelle comment?
Le chat.
Le chat? Mais tu es content, tu préférais pas chanter, tu es content de nous dire le chat?
Oui.
Alors on écoute le chat, mon cher Thibaut.
Le Baudouin, Amaury.
Je t'embrouille tous nos prénoms. Amaury dans le chat, à toi.
Le chat. Dans ma cervelle se promène, ainsi qu'en son appartement, un beau chat, fort, doux et charmant. Quand il miaule, on l'entend à peine. Tant son timbre est tendre et discret, mais que sa voix s'apaise ou gronde, elle est toujours riche et profonde. C'est là son charme et son secret. De sa fourrure blonde et brune, sort un parfum si doux, qu'un soir j'en fus embaumé pour l'avoir caressé une fois, rien qu'une. C'est l'esprit familier du Dieu. Il juge, il préside, il inspire toutes choses en son empire. Peut-être a-t-il fui, est-il Dieu, Charles Baudelaire.
Très bien, Maurice. Bravo. C'était très très bien, même s'il y a certaines consonnes que tu aimes moins que d'autres, j'ai l'impression. Tu aimes bien toutes les consonnes, Maurice, ou pas, dans les lettres de l'alphabet? Est-ce que tu en as que tu aimes moins que d'autres?
Non.
Non, tu aimes bien toutes les lettres?
Oui.
J'ai l'impression qu'il y en a que tu aimes moins. Est-ce que toi-même, tu as un chat ou tu en connais?
Oui, j'en connais, mais je n'en ai pas.
Raconte-moi un chat que tu connais, que tu as rencontré.
Chez mes cousins, ils ont un chat noir qui s'appelle Salis.
Salis, qui est plutôt sympa. Ce n'est pas le chat qui va tout de suite te griffer, quoi. Il parle d'abord un peu.
Oui, il est mignon.
Il fait quoi, ce chat? Il est mignon et tu voudrais en avoir un?
Oui.
Tu veux que je demande à tes parents afin de gâcher entièrement l'ambiance? Si tu peux avoir un chat?
Non.
Le papa voilà. vient de c'est dire merci, Edouard.
Voilà, papa vient de dire merci. C'est un petit peu comme quand on offre une trompette ou une batterie à des enfants d'amis à prendre des tricards pendant deux ans ou trois. Bravo à Maury, je te laisse emmener ton frère. C'était super de dire du Charles Baudelaire ce matin et de parler de chat avec toi. À bientôt.
À bientôt.
Thierry Paret, un petit poème peut-être ?
Non, pas vraiment.
D'accord, hein. Les infos alors.
C'est un poème qui n'est pas très tendre, hein, entre les Pays-Bas et la Turquie en ce moment. Le torchon brûle entre les deux pays. Après le refus des Pays-Bas d'accueillir deux ministres turcs, la Turquie hausse le ton donc en promettant des mesures de rétorsion, dénonçant un comportement rappelant le nazisme et le fascisme. Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie, s'est lancé dans une guerre des mots particulièrement acerbe contre les Pays-Bas. Ils auront naturellement à en payer le prix et aussi à apprendre ce qu'est la diplomatie. C'est ce qu'a asséné le président turc lors d'un discours à Istanbul. Un ami m'a offert des costume en février. Et alors ? Se défend François Fillon dans les colonnes du quotidien Les Échos ce matin. C'est la nouvelle polémique concernant le candidat de la droite. Il s'est fait offrir pour près de 50 000 euros de vêtements, des costumes en l'occurrence. Reste à savoir si le déontologue de l'Assemblée nationale est au courant, comme l'exige la loi. Selon Jean-Christophe Picard, le président de l'association de lutte contre la corruption Anticor, c'est un peu curieux que l'on puisse accepter des cadeaux de ces montants-là sans garantie qu'il n'y ait pas de contrepartie. Plus de 40 ans après les faits, le Vénézuélien Ilich Ramirez Sanchez, dit Carlos, 67 ans, va être jugé pour l'attentat du drugstore Publicis du boulevard Saint-Germain à Paris. Son procès devant les assises s'ouvre ce lundi. Cet attentat, il fit deux morts et plusieurs dizaines de blessés en 1974. Carlos a déjà été condamné à deux reprises à la réclusion criminelle à perpétuité pour des crimes commis en France. Tahrir al-Sham, coalition de groupes djihadistes, a revendiqué le double attentat contre des pèlerins chiites qui a fait 74 morts et 120 blessés ce week-end à Damas, la capitale syrienne. Les prix vont augmenter de 6 à 10 euros en moyenne sur les nouvelles lignes Paris-Rennes et Paris-Bordeaux. On parle de train bien sûr, mais l'opérateur ferroviaire va aussi doubler le nombre de ses offre à petit prix sur les TGV. Les ventes estivales ouvrent mercredi. Ouais. Elle estime dans les colonnes du JDD que la situation... Édouard ? Ah non,
oui,
pardon.
Oui.
Non, pardon. Elle estime dans les...
Ah pardon, j'étais en train de m'installer avec mon invité, pardon.
Mais tu as bien raison. Elle estime dans le quotidien, dans le JDD, que la situation s'améliore, mais que Paris n'est pas encore parfaitement propre. La maire de Paris, Anne Hidalgo, annonce 10 mesures pour lutter contre la propreté, pour lutter pour la propreté dans les rues parisiennes, allant d'une sensible augmentation des effectifs de nettoyage et de répression à la lutte contre les rats ou encore la multiplication des cendriers. Le chef français Michel Del Burgo, plusieurs fois étoilé en France et à l'étranger, est décédé ce week-end à l'âge de 55 ans des suites d'un cancer. Autre disparition qu'on a appris ce week-end, celle de l'artiste chilien Angel Parra qui vivait en France depuis 40 ans. Il avait 73 ans, figure de la diaspora de ce pays.
Le fils de Violetta Parra.
La France était devenue sa nouvelle patrie en fait. 38 morts, c'est le nouveau bilan d'un autobus haïtien qui a percuté une foule de musiciens de rue hier à Gonaïves. Deux personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées en Argentine dans une bousculade lorsque plus de 300 000 spectateurs ont envahi la petite ville de Olavarria pour un concert d'un chanteur Indio Solari. Les concerts de cet artiste drainent régulièrement des foules de fans dans tout le pays. Mais alors là, personne ne s'attendait apparemment à autant de monde. Monaco, Paris et Nice, pas de changement sur le podium du championnat de France de football. À ceci près que désormais le PSG est seul deuxième avec 65 points, 3 de moins que Monaco et 2 de plus que Nice. Hier soir, en clôture de la 29e journée, les Parisiens sont allés s'imposer 2-1 sur le terrain de Lorient. Et puis on termine avec Sébastien Destremo, qui est le dernier skipper du Vendée Globe à avoir franchi la ligne d'arrivée, donc au Sable d'Olonne. Il a passé 4 mois et demi en mer, et donc au moment où il s'était lancé, François Hollande, par exemple, pouvait encore être candidat à la présidentielle.
Mmh. Oui, vous étiez effondré vers la fin, là.
Non, mais c'était possible.
Il y a eu un effondrement dans la
course. Ce que j'entendais par là, Edouard, c'est qu'en fait, entre le moment où il se lance dans la course, donc il y a 4 mois et demi aujourd'hui, s'est passé beaucoup de choses, et notamment ce fait-là.
C'était pour illustrer,
j'entends
quoi.
J'entends bien. Et... Oui, mais Christophe, ne défendez pas Thierry Paret, si vous voulez, parce qu'il tient d'une main de fer tout le journal. Et tout à coup, il y a un effondrement, on va dans des marais, on s'enfonce dans un bourbier. On attaque très fort avec Thierry Paret, qui nous dit tout de suite, ça va être un poème pas très tendre. Donc, il évoquerait l'idée que l'actualité serait une fête en larmes, n'est-ce pas ? Que le monde lui-même serait une sorte de sourire un peu crispé ou de rire triste. Ensuite, il y a eu ce petit moment assez étrange où vous avez évoqué le déontologue de l'Assemblée, un métier qu'on ne connaissait pas, on imagine un petit bureau... 8e étage, 5e porte à gauche, on frappe à la porte. Oui, il y a un vieux mec, il a 3 stylos Bic dans la poche. C'est le déontologue de l'Assemblée. Il est là. Qu'est-ce que tu vas faire chez Je vais en déontologie à l'Assemblée. C'est formidable, j'imagine bien cette famille. Et puis ensuite, il y a eu cette idée, ce lapsus qui était aussi joli. Vous avez dit qu'éventuellement, Anne Hidalgo voulait lutter contre la propreté. Et je trouve ça formidable. Je pense qu'il faut lutter contre la tentation de la propreté. La propreté, il y a un côté ordre moral dans la propreté. Il y a un côté d'une blancheur, il y a un côté d'immaculé. Il faut se méfier de la pureté. Il faut accepter que nous sommes comme nous sommes les êtres humains, avec nos saletés, nos
nos erreurs, nos blessures, nos petites scarifications. Nos, voilà, il faut être un peu sale.
C'était Thierry Farah.
Salut.
Écoutez, ça va le niveau, lui, écoutez. Et il faut dire que là, au Congolais, c'est heureusement, quoi. Immédiatement, voilà.
Eh ben nous, ici, on est au Congo, à Paris, Zaïre. On dit, vous êtes Zaïrois ou vous êtes Congolais?
Nous sommes des Zaïrois, 100%. Voilà.
À Zaïrois, le Congo, c'est encore le plus courant, en fait.
Mais nous, c'est le grand Zaïre. Voilà, le grand Zaïre de Mobutu. Voilà. Nous sommes au Zaïre, ici.
Et voilà, on est au Zaïre, ici, Edouard. Et alors, donc, vous connaissiez l'Afrique du Sud, vous m'avez dit, vous?
Oui, en tout cas, là, on est vraiment en plein cœur du Zaïre, mais à Paris. L'ambiance est à gogo, on est avec notre grand maître d'hôtel Laoucine, dans notre grand directeur Laoucine, un Marocain qui est devenu Congolais.
Et vous, vous disiez au Cap, ça ressemble vraiment, le Cap, vous connaissez le Cap en Afrique du Sud, vous dites le Cap, c'est comme si on était en Hollande.
Le Cap, il est très 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 joli, j'ai beaucoup apprécié, j'ai aimé, vraiment c'est un très bon coin en Afrique, mais on se croirait en Hollande.
Et là on est avec Edouard.
Il y a une vraie nostalgie, oui. Bonjour, chers messieurs. Je sens une nostalgie du maréchal président Mobutu, le grand Zaïre avant l'appellation RDC, avant le Congo. Vous êtes un nostalgique du Zaïre.
On n'a pas, ce n'est pas quelque chose de nostalgique. On était trop malheureux. Lorsqu'on parlait des Zaïrois ici à Paris, on nous prenait au sérieux. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Ça, vous devez le savoir. Avec le président Giscard et tout ça, nous, on a vécu le temps du président Mobutu, le président Giscard et tout. Même le président Chirac. Lorsqu'on parlait des Zaïrois, on nous prend au sérieux. Maintenant, lorsqu'on parle des Congolais, on voit tout ce que vous voyez là, que je n'ai même pas, je n'ose même pas dire. Quoi.
C'est parce qu'il y a un petit Congo.
C'est parce qu'il y a un petit Congo à côté du grand Zaïre. Donc, le petit Congo veut toujours s'infiltrer, il veut devenir... c'est une province du Zaïre, ça. Même pas province, chevalier, voilà, si vous dire ça. Voilà. Donc, j'apprécie toujours le grand Zaïre.
Le grand Zaïre, donc c'est la personnalité de Mobutu lui-même qui crée ça pour vous,
ah
ce
ben
rapport
voyez,
de force.
Vous voyez, monsieur, si je vous dis aujourd'hui nous avions la valeur ici, lorsque vous voyez un Zaïrois qui passe avec son abacos bien habillé, tout ça, avec son charisme, vous sentez, voilà, ça c'est un Zaïrois qui passe. Mais maintenant, on est confondu dans la masse, hein, s'il vous plaît. Hein. Voilà,
alors,
c'est ça le grand problème. Nous voulons revenir avec notre image de grand Zaïre.
Alors, il y a aussi la mort de Papa Wemba récemment, il y a quelques mois, les grandes figures zaïroises parisiennes.
Effectivement, vous voyez que tout ça, ça nous perturbe. Hein, parce que lorsque Papa Wemba, lorsqu'on parle de Papa Wemba, on voit les Zaïres, on ne voit pas les Congo. Hein.
Oui.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qui se passe ce matin à 8h08? Je sens une très grande ambiance là où vous êtes. Est-ce que ce sont ces fameuses fêtes du matin?
Eh bien, justement, on était en pleine ambiance depuis hier. On a songé à ce qu'on remette l'ambiance qui était avant entre le Zaïre et la France. Voilà.
On
était
allez,
très,
on va ambiancer.
Très proches.
Allez, on chante, on ambiance ce lundi matin tous ensemble. Allez-y.
Allez, écoutez, écoutez, écoutez.
Un lundi matin, comme
ouais,
un peu d'autres.
Voilà.
Ça fait plaisir. Écoutez. Très bonne journée. Vous nous
merci,
avez foutu une
aussi.
Patate, mon Dieu, je peux te dire. Salut.
Au revoir, au revoir.
Bravo, bravo.
7h, 9h, plus près de toi. 9h, plus près de toi.
7h, 9h,
Edouard Baird.
Je m'éclate, j'en peux plus.
Nova.
Edouard Baird est en duplex de Johannesburg en Afrique du Sud pour voir si l'émission passe bien de là-bas. Il l'écoute d'un peu plus loin, c'est juste scientifique. Et Thomas, nous sommes avec un invité, on parle de folie, de microfolie.
On parle de folie, on va parler de microfolie avec Didier Fusilier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette dans le nord de Paris, ça c'est le titre officiel. C'est 55 hectares, c'est 10 millions de visiteurs par an, cet endroit-là, c'est ça?
Oui, oui, oui.
Et c'est... là, ce qui est en train de se passer, c'est que le territoire, d'une certaine manière, est en train de s'agrandir avec ce que vous appelez les microfolies.
Bah oui, sur le parc, vous avez la Philharmonie, la Cité des Sciences, le Zénith, le nord de Paris, dans le 19e, codé au 93. Effectivement, on a des cubes rouges qui ont été inventés par l'architecte Bernard Tchoumi, qui sont des petits pavillons architecturaux assez étranges. Mmh. Et on a décidé finalement de les essaimer dans toute la France, si on peut. Mmh. Et la première microfolie est à Sevran. Alors, c'est en gros, c'est quoi? C'est un musée numérique avec des œuvres du Louvre, du château de Versailles. En fait, vous, vous, vous vous baladez dans tout le château de Versailles, tout ça en numérique. Mm-hmm. La Joconde, les Noces de Cana, enfin, c'est un délire complet. Il y a 270 œuvres comme ça qui sont en très, très haute définition d'image.
Dans un bel écrin, non, dans un endroit un peu sombre, elle permet de briller en quelque sorte.
Oui, c'est ça. En fait, on a souvent Beaudotte dans le quartier des Beaudottes, qui est un quartier hyper vivant, on peut dire ça comme ça, mais vraiment très, très, très étonnant dans sa culture. Et là, vous avez ce musée numérique, en fait, qui se transforme instantanément en scène. Donc là, vous avez des graphes numériques, vous avez aussi de la réalité virtuelle, vous avez un Fab Lab, et puis surtout un café associatif. Et ça, c'est vraiment une ambiance incroyable pour les tout-petits, mais aussi pour des street artistes, des breakers. Et donc, ça vit en permanence, une sorte de coopérative. On a lancé ça il y a un mois, et c'est vraiment un gros, gros succès.
Alors, on va revenir sur cette triple structure de cette microfolie. Le café, effectivement, vous dites surtout un café, il y a une idée de convivialité, de lien avec le quartier, en l'occurrence là, dans le quartier des Beaudottes à Sevran, donc en 93, mais ça peut se trouver n'importe où. Vous dites quelque part, je crois qu'il faut une connexion au débit et on peut installer cette microfolie.
Bah oui, c'est ça qui est assez intéressant. On s'est groupé à sept gros musées et institutions. La Philharmonie est aussi avec nous, par exemple. Et puis, petit à petit, on va greffer le Prado à Madrid pour tout ce qui est muséal.
Oui, pourquoi s'arrêter à la France, d'ailleurs, avec une structure comme ça.
Exactement. Les musées de Montréal, dont on ne connaît pas les œuvres, des Inuits. Enfin, vous voyez, la richesse à terme, effectivement, il suffit d'une connexion, d'un lieu. Ça peut se mettre dans une ancienne église, une halle industrielle. Et on se connecte à ça. Et l'idée, c'est vraiment d'un outil très léger, pas cher. Donc la prochaine microfolie qui devrait être signée là bientôt avec la ministre de la Culture qui a beaucoup poussé derrière.
Qui est déjà venue deux fois à Sevran.
Mais Audrey Azoulay, elle est vraiment là sur le très 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 incisive là-dessus parce qu'en gros c'est une nouvelle maison de la culture mais en micro format quoi. Si vous voulez où tout est réuni, c'est la taille d'une piscine de 25 mètres. Donc vous voyez, c'est pas très grand, ça peut se mettre n'importe où. On fait deux nains. Donc, à côté de Valenciennes, là, c'est la prochaine, les Mureaux, Avignon, Marseille, Lille, Alençon. Enfin, vous voyez, ça peut aller aussi dans les Outre-mer, à l'étranger. Enfin, voilà, c'est un peu cette idée. Mais on ne s'attendait pas à ce que ça parte aussi vite, quoi, à ce que ça marche. Parce que, en fait, c'est une coopérative. Vous avez une idée, vous la déposez et vous venez vous produire. Et si vous avez une classe, par exemple, de CE2, on entendait des enfants là tout à l'heure, vous avez une heure et là, le prof fait son cours. Et tout ça, avec des tablettes numériques, les enfants peuvent reconstituer en puzzle la Joconde. Enfin, on est vraiment sur une idée d'une interaction, d'une médiation pour mieux comprendre ces trésors et les amener là où le public vit, en fin de compte, parce que c'est pas si simple. On dit, il suffit d'aller au Louvre. Enfin, aller au Louvre, c'est pas si évident, quoi.
Mais ce qu'on entend aussi, c'est que les outils, ce sont des outils avec lesquels les enfants, vous parlez de classe CE2, ça peut être des enfants un peu plus vieux aussi, sont souvent très à l'aise
très, très vieux,
avec
même.
Ça. Ça peut être très, très vieux, oui. Mais justement, est-ce que ça peut pas être le lieu de ce qu'on appelle la pédagogie inversée? C'est-à-dire que les enfants, avec ces tablettes, où les adolescents peuvent apprendre aussi à une population du quartier, de la ville, un peu moins à l'aise avec ces outils-là. On peut imaginer ça?
Mais ils apprennent à leurs parents déjà, pour commencer. et c'est vraiment incroyable parce qu'effectivement, vous le dites très bien, ils sont extrêmement intuitifs là, sur ça. Et puis, il y a 1000 possibilités avec ces tablettes. Donc, on ne touche pas à l'œuvre qui est en face de vous sur un énorme écran. C'est quand même 25 dalles numériques. Hein. C'est hyper impressionnant, avec des effets de zoom assez sidérants. Mais vous avez votre tablette sur laquelle vous avez les contenus qui viennent du Louvre ou du Centre Pompidou ou du Musée Picasso. C'est ça qui est absolument incroyable. Vous avez des films sur Picasso, vous le voyez peindre et vous voyez l'œuvre à côté. Et c'est vraiment stupéfiant. Comme visiter Versailles, je vous assure, en Street View, c'est assez étonnant. Donc, ce sont des technologies assez nouvelles, finalement. C'est pas non plus révolutionnaire, mais c'est l'association de tout ça, finalement, qui crée cette énergie.
Voilà, alors, ces œuvres...
J'ai des questions, Edith, de là-bas.
Le café et le Fab Lab, on va en parler, mais il y a une question de notre auditeur.
Bonjour.
Bonjour.
On va vous parler d'image, on parle de réalité virtuelle, mais les œuvres elles-mêmes, est-ce que des œuvres physiques voyagent ou est-ce que c'est juste l'image de l'œuvre qui voyage?
Alors, c'est, comme vous dites, c'est juste l'image, parce que bouger une œuvre aujourd'hui à Sevran-Beaudotte, soyons clairs, et même ailleurs, c'est quasiment impossible, les conditions de sécurité et de conservation des œuvres. Mais l'idée, c'est vraiment de permettre aux jeunes aussi, une fois qu'ils ont vu cette vision numérique qui n'est pas l'œuvre, évidemment, on ne prétend pas présenter des œuvres, mais c'est de donner vraiment l'envie, et d'ailleurs ça marche. À chaque personne qui rentre, on donne une sorte de passe coupe-fil, on rend finalement les jeunes de Sauvant-Beaudot ou les moins jeunes, puisque c'est fréquenté par tout le monde, une sorte de VIP. Donc ils ont un coup-fil pour aller au Louvre, pour aller au Château de Versailles, enfin, pour aller où ils veulent. Et ça sera pareil dans le monde entier. Donc ça aussi, ça a été un effort extraordinaire des établissements qui participent à ça.
Vous parliez à l'instant de Didier Fusilier, de la troisième brique de cette microfolie, de ce modèle comme ça qui peut voyager. Le Fab Lab, le laboratoire de fabrication, un endroit concret, les imprimantes 3D, c'est ça ce qu'on trouve dans le Fab Lab de chaque microfolie.
Voilà, alors que vous utilisez vous-même, parce que c'est un peu le principe, c'est que vous rentrez là-dedans et finalement vous vous débrouillez un peu tout seul. C'est vraiment notre envie, donc vous repartez avec votre buste en 3D, vous savez, ça c'est quand même... Des machines sensationnelles, parce que votre copain, votre copine, vous repartez avec son buste, en fait. Hein, ou alors vous imprimez vos t-shirts avec des dessins que vous avez fait avant, sur des machines à coudre aussi à 14 bobines. Enfin des...
C'est en ça que vous dites qu'on peut venir avec son projet.
Oui, on vient avec son projet, et puis aussi on peut écrire, on peut aussi faire la cuisine. Hein, parce que pour moi, c'est vraiment très important qu'il y ait cette chaleur, qu'on vienne se retrouver. Encore une fois, c'est ouvert tous les jours sauf le lundi. On rentre, on sort, on fait ce qu'on veut, mais vraiment, on se fait happer. On se fait happer par quelque chose qui est plus puissant que vous. Parce que ces œuvres-là, quand même, là, on avait par exemple la Philharmonie, vous avez la version par Pierre Boulez du Sacre du Printemps de Stravinsky. Ben, franchement, vous êtes complètement esquinté par ça. Enfin, c'est magnifique.
Voilà, donc des œuvres à voir, à entendre, des œuvres à fabriquer aussi soi-même finalement, et puis un café pour la convivialité, pour discuter de tout ça.
Et puis des concerts, hein, puisque là on accueille dimanche prochain des battles de hip-hop
à
Sevran. Bon, on a eu à Wally, on a aussi, vous savez, il y a Junior, il y a une culture très, très féconde à Sevran. Et l'idée c'est de mélanger ensuite avec les Mureaux, avec Saint-Denis, mais aussi avec Alençon, Marseille, des versions Skype, comme on voit Edouard Baird en Afrique du Sud, d'avoir ce rapport extrêmement vivant de partage, même sur des continents qu'on ne connaît pas forcément.
De l'art accessible tout près de chez soi. Voilà, c'est voilà, ça, les microfolies qui vont naître, qui sont dont la première donc à Sevran dans le quartier des Baudottes, et puis bientôt partout en France.
Merci, la connexion Skype avait coupé pendant ce temps-là, ce qui fait que je n'ai pas pu poser mes questions sur la garde de Azoulay, savoir si le pays elle-même s'est tenue. J'ai juste eu à nouveau la liaison au moment où Thomas Bougardner vous a dit cette phrase: des cafés pour la convivialité. Et cette phrase, pour moi, elle est immense. Tiens, prenons un café, ce sera convivial. Ça me fout. J'ai saoulé la gueule quand j'entends ça. Non, ça... Merci, messieurs.
Merci, Edouard, est-ce que vous avez lu la presse ce matin en Afrique du Sud, Edouard?
Oui. Vous pouvez pas beaucoup de vous. Hein. Sur Macron et Fillon, c'est assez léger. Hein, je peux vous dire, c'est un entrefilet entre les résultats du loto sportif local et les courses.
Ah bon, d'accord. Bon, Marie a lu la presse pour nous ici. Coucou.
Qui c'est qui a dit qu'elle ne travaillait pas, qu'elle ne fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset.
Bonjour, bonjour l'Afrique du Sud, bonjour la France, bonjour Edouard. Ah, tu es là. Je n'ai pas beaucoup de voix, donc ça se trouve cette revue de presse va s'arrêter au milieu, sachez-le. Mais c'est parti. En une aujourd'hui, donc François Fillon.
Battez-vous, bats-toi. Elle est où ma gagnante, elle est où ma championne?
J'y suis.
Tu crèves au boulot. Même un filet de voix, même un souvenir de voix, même un souffle, je veux
que ça existe. On terminera en chuchotant. François Fillon, donc, qui est à la fois dans les Échos en une et dans le Figaro. Le Figaro qui a repris fait et cause pour le candidat après un léger doute la semaine dernière. Ça y est, ce candidat est bien celui dont le programme est le seul qui puisse empêcher la relégation de la France. C'est le Figaro en édito. L'affaire qui occupe plus ou moins tous les journaux aujourd'hui, c'est à la crise diplomatique entre la Turquie et le Pays-Bas qui a eu lieu ce week-end. Libé résume le Beans. Ce week-end devait avoir lieu en Hollande un meeting pour les Turcs expatriés aux Pays-Bas afin de les convaincre de voter oui au référendum qui étendrait les pouvoirs de Recep Erdogan. Eh bien, le Pays-Bas a interdit au ministre qui devait venir d'atterrir à Rotterdam. Là-dessus, Erdogan s'est un petit peu emporté. Il a dû se dire que comme il avait déjà traité les Allemands de nazis la semaine dernière, il pouvait bien traiter les Hollandais de fascistes et puis de nazis encore pour bien faire. Dans Libé, toujours, Jean Marcoux, professeur à Sciences Po, ajoute que tout ça, ça donne à Erdogan la possibilité de donner une leçon de démocratie à l'Europe au moment même où il organise un référendum pour réduire la démocratie dans son pays à lui. En France, un meeting a bien eu lieu. C'est au centre des congrès, à Metz. Et Le Figaro nous raconte que ça a scandalisé l'ensemble de la classe politique, des écolos jusqu'à Nicolas Dupont-Aignan et le FN, qui attise la peur du communautariste. Seul Emmanuel Macron, sur cette question, réussit à faire un nini, nous dit Le Figaro. C'est pas bien, mais on pouvait pas non plus l'interdire. Alors que Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères, évoquait, lui, la liberté de réunion, l'absence de menaces de troupes que faisait peser ce meeting et la non-ingérence du meeting dans la politique française. En tout cas, aux Pays-Bas, la toile de fond de cette décision, ce sont les élections législatives où toutes les discussions se focalisent et s'orientent autour de l'islamophobe et populiste Geert Wilders, qui est en tête dans les sondages. Et ce blond à la chevelure casquée est justement en portrait dans Le Figaro. Son frère, avec qui il a coupé les ponts et qui en est triste, explique qu'il aime son frère, mais que celui-ci coupe les ponts avec tous ceux qui le contredisent et évolue dans un cercle très fermé où personne, du coup, n'ose le contredire, notamment parce qu'il est protégé 24 heures sur 24 à cause des fatwas qui pèsent sur lui.
Oui, oui. Il s'est isolé, Geert, récemment. On n'arrive plus à lui, point du
on n'arrive plus
du
à
tout.
Lui parler.
C'est vraiment... C'est pareil pour mon petit Jean-Marie. Et Le Pen, il est très isolé, mais bah, il faudrait passer le voir de temps en temps.
Ça montre tout.
Qu'on tombe, parce qu'on ait des mauvaises surprises.
Bon, on ira, Edouard, je vous laisse y aller. Son biographe, à Geert Wilders, Mindert Fenema, qui le présente comme un homme brillant et pas raciste, dit quand même que ses idées sont très dangereuses et pourraient mener à une purification ethnique, ce qui est très fort pour quelqu'un qui n'est pas raciste. Dans Les Échos, on nous rappelle que ces élections en Hollande, c'est le premier test de 2017 pour l'extrême droite, qui bizarrement ne pousse pas dans les pays massacrés par la crise, comme l'Espagne, le Portugal et la Grèce, mais bien dans des pays qui, selon les indicateurs habituels en tout cas, vont plutôt bien. Alors que dans Le Monde, Kenneth Roth, directeur de Human Rights Watch, s'inquiète, lui, très fort d'un phénomène général de populisme qui guette toutes les démocraties occidentales et considère presque que pour la Pologne et la Hongrie, c'est déjà perdu. Le Monde de ce week-end, en tout cas, publiait un long papier sur un autre parti anti-système assez différent des précédents qu'on vient de nommer, celui de Beppe Grillo en Italie, le parti 5 étoiles grand papier dans Le Monde, qui s'interroge comment est-ce qu'en moins de 10 ans, un non-parti campant sur une ligne ni droite ni gauche, créé par un informaticien et un comique à succès, est devenu une des formations politiques les plus puissantes d'Italie. Alors le parti 5 étoiles, il était plutôt classé dans la dissidence de gauche. Ses premiers combats, c'était contre la ligne de TGV Lyon-Turin, contre la privatisation de l'eau, pour l'obligation d'avoir un casier judiciaire vierge pour être élu. Et il appartient aussi, ce parti 5 étoiles, au groupe des eurosceptiques, très marqué à l'extrême droite au Parlement européen. Surtout, son succès repose sur la même colère que celui des extrêmes droites européennes, même si son programme est très différent. Pour les électeurs de 5 étoiles, je cite Le Monde, « Peu importe les revirements du mouvement, leur adhésion est fondée sur autre chose qui les motive, c'est la colère contre la classe dirigeante italienne et leur envie de balayer le système politique. » Une colère qui, cela dit, on peut le dire, ne se passe pas sur les étrangers et migrants qui arrivent en masse sur les côtes italiennes.
Eh ben, ça a été cette voix, c'était très
oui,
bien.
Oui, parce que j'imagine que
est-ce
c'était très
peut,
agréable.
Est-ce qu'on peut
pour
tous
vous.
Tousser un peu.
Oui, je sais que vous en avez envie. Tousser chez vous. Moi-même, je vais le faire en antenne.
Ah, bon, bah, c'est l'heure de la pub. Puis après, il y aura les infos, d'accord?
Oui. Et bien sûr.
7h, 9h, plus près de toi.
On va plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Oui, les téléphones, là.
Édouard Baer est toujours en Afrique du Sud. Il n'est pas revenu en studio depuis le début de l'émission. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, Édouard. Ici, on prépare un petit live, le live de La Chica, qui aura lieu dans une vingtaine de minutes. Maintenant, c'est un gros coup de cœur, nous dit Rudy. Donc voilà, c'est à suivre. Et voilà, je crois que c'est les informations. Thierry ?
Il est là. Faut-il permettre au président turc Erdogan d'envoyer ses ministres participer à des meetings organisés en Europe dans le cadre de la campagne pour le référendum du 16 avril en Turquie, sachant que ce vote a pour but de donner plus de pouvoir au président? Non, répond la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas qui ont refusé de tels meetings sur leur territoire. Les Pays-Bas, c'était ce week-end, vous avez sans doute suivi cette affaire. Oui, par contre, répond la France qui a permis au ministre turc des Affaires étrangères de participer à un meeting à Metz hier. Résultat, eh bien, l'opposition monte au créneau, notamment François Fillon. Le candidat de la droite accuse le gouvernement de rompre rompre la solidarité européenne. François Fillon qui s'exprime dans les colonnes du quotidien Les Échos ce matin. Il affirme ne pas se faire trop d'illusions sur sa mise en examen mercredi et puis il revient sur ses costumes. Un ami m'a offert des costumes en février et alors, se défend François Fillon qui s'est fait offrir pour près de 50 000 euros de vêtements. Des costumes, donc en l'occurrence, des frais que le candidat se doit, selon la règle en vigueur, de déclarer auprès de l'Assemblée nationale. Selon Jean-Christophe Picard, président de l'association de lutte contre la corruption Anticor, c'est un peu curieux que l'on puisse accepter des cadeaux de ce montant-là sans garantie qu'il n'y ait pas de contrepartie. Le 15 septembre 1974, en fin d'après-midi, deux personnes étaient tuées, 34 autres blessées dans l'explosion d'une grenade lancée dans l'enceinte de l'ancien drugstore Publicis à l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue de Rennes à Paris. Plus de 40 ans après les faits, le Vénézuélien Ilich Ramirez Sanchez di Carlos, 67 ans, va être jugé pour cet attentat. Son procès devant les assises s'ouvre ce lundi. Tahrir al-Sham, c'est une coalition de groupes djihadistes et c'est ce groupe qui a revendiqué le double attentat contre des pèlerins chiites qui a fait 74 morts et 120 blessés ce week-end à Damas, la capitale syrienne. Les Nations Unies ont averti ce week-end que le monde est confronté à la pire crise humanitaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec un risque de malnutrition et de famine pour 20 millions d'habitants de trois pays d'Afrique et au Yémen. Les prix vont augmenter de 6 à 10 euros en moyenne sur les nouvelles lignes TGV Paris-Rennes et Paris-Bordeaux. On attendait les prix et on attendait de savoir dans quelle mesure ça allait augmenter. Anne Hidalgo s'attelle à la propreté à Paris. La maire de la capitale annonce 10 mesures destinées à lutter pour la propreté des rues parisiennes, allant d'une augmentation des effectifs de nettoyage et de répression à la lutte contre les rats ou encore à la multiplication des cendriers. Le chef français, Michel Del Burgo.
J'ai l'impression que cette info-là, tout à coup, c'était vous êtes demandé si c'était vraiment un truc qui allait faire le journal. Hein
non, pas vraiment. Moi, non, ça m'intéresse.
J'habite à Saint-Étienne ou j'habite à Lille. Je veux savoir qu'on va mettre plus de cendriers dans les rues de Paris. Bizarrement, ça me touche une, ça me fait rebouger l'autre, comme on dit dans la vie.
Le chef français Michel Del Burgo, plusieurs fois étoilé en France et à l'étranger, est décédé ce week-end. Il avait 55 ans. On a aussi appris ce week-end le décès d'une personnalité, une autre personnalité, l'artiste chilien Angel Parra, qui habitait à Paris, hein, figure de la diaspora de ce pays. Il avait 73 ans, il habitait depuis 40 ans en France. Deux personnes sont mortes, plusieurs ont été blessées en Argentine dans une bousculade lorsque plus de 300 000 spectateurs ont envahi la petite ville de Olavarria pour un concert d'un chanteur, Indio Solari en l'occurrence. Les concerts de cet artiste draine régulièrement des foules de fans dans tout le pays, mais là, personne ne s'attendait apparemment à autant de monde. Monaco, Paris et Nice, pas de changement sur le podium du championnat de France de football, à ceci près quand même que désormais le PSG est seul deuxième avec 65 points. 3 de moins que Monaco, 2 de plus que Nice. Hier soir, en clôture de la 29e journée, les Parisiens sont allés s'imposer 2-1 sur le terrain de Lorient. Et puis la 8e édition du Vendée Globe est terminée. Le dernier concurrent à franchir la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne est Sébastien Destremo. Il a franchi cette ligne d'arrivée hier. Rendez-vous en 2020 pour la 9e édition.
Tito est en place pour la météo.
Alors maintenant, écoutez bien. À la frontière espagnole, il pleut et sur les plus hautes montagnes, il neige. Alors que sur la Méditerranée, à Marseille, eh bien, il fait beau. Et dans toute la France, c'est un peu nuageux, le soleil est caché. Mais il fait beau partout. Alors les températures seront, attention, accrochez-vous, quelques températures seulement. À Boulogne-sur-Mer de 6 à 11, à Angers de 3 à 15, à Dreux de 1 à 13, à Laval de 2 à 14, à Melun de 3 à 15, Montpellier de 7 à 19, à Paris entre 2 et 15, Poitiers entre 6 et 15, 7 entre 7 et 16, Vienne entre 1 et 11 et Saint-Jean's entre 0 et moins 6. La 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 la.
Formidable, c'est un des plus beaux lala que j'ai entendu depuis longtemps. Merci Tito. Nous sommes ici en train d'attendre de tourner avec Jacques Souvent alors.
Soyez BCBG. Je suis dans la rue, on est dans quelle rue là ? Rue Montmartre. Et il y a un triporteur avec une espèce de c'est quoi ? C'est une armoire sur le triporteur ?
C'est presque une penderie mobile.
Une penderie mobile, voilà, parce que j'ai rencontré ce matin un groom à domicile.
Oui, bonjour. Je m'appelle Thomas, je suis le fondateur de Soyez BCBG, du pressing et de la cordonnerie à domicile.
D'accord,
on vous apporte votre costume et vos pompes à domicile.
Exactement, on vous les prend, on vous les nettoie, on vous les répare et on vous les rapporte à domicile.
Est-ce que ce sont toujours les pompes qu'on a, les costumes qu'on a donnés avant ou parfois il y a des échanges de matériel ?
Alors il faut faire une demande, hein, quand le costume est un petit peu abîmé, on peut s'arranger.
La question est donc.
Et donc, vous avez des scooters électriques, vous avez... c'est une vraie armada, là.
Excellent.
Scooter électrique, triporteur électrique, on a une logistique 100% électrique pour éviter de polluer le ciel de Paris. Ça vient comment, une idée comme ça ?
Thomas, vous avez une sacrée énergie ce matin. Est-ce que c'est le fait de pédaler sur ce triporteur qui vous donne cette niaque, cet enthousiasme dans la voix, ou est-ce que c'est le goût du vêtement propre et bien repassé ?
Alors, c'est le vent qui tape sur la peau dès le matin à 7h du mat pour aller chercher les affaires chez nos clients.
Comment ça vous est venu l'idée ? Vous faisiez quoi avant ? Comment vous êtes devenu entrepreneur comme ça ?
Un ancien consultant qui a eu ce problème de costume quand il était dans son entreprise, qui n'avait jamais le temps d'y aller tôt le matin ou tard le soir parce que c'était fermé. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi pas, avec deux de mes associés d'école, pourquoi pas créer un service pratique directement à domicile ?
Il y a de l'intimité, bien sûr, dans le pressing, dans la blanchisserie. C'est entrer dans l'intimité de l'autre. Est-ce qu'il y a des tâches que vous refusez nettoyer ou est-ce qu'il y a des pièces de vêtements que vous refusez d'approcher ?
C'est, on va dire que c'est confidentiel dans le métier. Il y a certaines tâches qui sont un peu plus difficiles à enlever.
Je comprends bien. Je vous remercie de cette ouverture d'esprit et de cette discrétion envers votre clientèle et la famille Fillon en général. Merci. Ici, je reprends le duplex parce que je suis avec le grand Michel Gohou ici. Donc, on était dans la rue Montmartre, Paris 1er arrondissement. Et là, on se retrouve juste à côté de Johannesburg, le grand Michel Gohou, la grande vedette de la télévision et du cinéma ivoirien et de toute l'Afrique francophone est à côté de moi. Vous allez le voir bientôt puisqu'il joue dans Bienvenue au Gondwana de Maman qui sort en avril. Michel, bonjour.
Bonjour, mon cher frère. Bonjour à tous. Tous les auditeurs.
Un tout petit peu, racontez votre vie un tout petit peu. Vous êtes à la fois ivoirien, burkinabé, vous sillonnez toute l'Afrique francophone.
Oui, effectivement, je suis ivoiro-burkinabé, résident en Côte d'Ivoire. C'est là que je suis né. C'est là que j'ai ma base, toute ma famille est installée là. Et voilà, que c'est là que j'ai fait mon premier pas sur les planches. Depuis 1985, je pratique les planches, j'ai fait le théâtre. Depuis 1985 jusqu'à aujourd'hui, et quand même quelques films cinéma, quelques films télé. Et puis bon, aujourd'hui, nous sommes sur le film Black Snake.
Alors Michel, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore en France, qu'est-ce qu'on pourrait regarder de vous qui circule sur Internet ? Qu'est-ce que vous nous conseillez ?
Allez voir, par exemple, Les Mariés du Net. Les Mariés du Net avec les Guignols d'Abidjan. Et allez voir aussi la série Ma Famille, qui passe sur le net. Allez voir aussi le Go Show, qui est programmé sur le net.
J'aime bien l'idée d'être programmé sur le net. Ça passe sur le net tout à l'heure, c'est bien.
Voilà, ça passe sur le net.
Michel Gouquet, vous jouez souvent des personnages un peu d'autorité, de mauvaise foi. Qu'est-ce que vous préférez jouer ? Vous aimez bien engueuler les gens ?
J'aime bien engueuler les gens, même taper dessus.
Allez-y, engueulez-moi, attention. Michel Gouquet va bien m'engueuler maintenant, c'est parti.
Attends, toi-même, tu te prends pour qui ? Tu te prends, tu crois que quand on te regarde et puis on te dit rien, là, c'est parce qu'on a peur de toi. Je vais te gifler ce matin. C'est-à-dire, je vais te gifler, quoi. Je vais te gifler. Ta mâchoire va se détacher pour aller tomber à 2 kilomètres de toi. Tu remplis ton magasin, là. Ma tantine va déborder ici. Regarde-moi, lui, là. Tu es malade ou bien quoi ? On te parle ou bien ils ont pissé dans ta tête ?
Merci. On retrouve Michel Gaou pour une scène de réconciliation tout de suite après. À vous, Paris.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi ?
J'y vais à pied, j'habite à côté.
Tout de suite après ce morceau, retrouvez le grand Michel Gaou dans une scène sentimentale qui terminera par
« Je t'aime ».
Beware Verwoerd, c'était la chanteuse sud-africaine Myriam Makeba à l'instant sur Nova. Édouard.
La grande Myriam Makeba, la grande chanteuse sud-africaine. Nous sommes toujours avec Michel Gohou. Michel Gohou, il faut vraiment le voir ces séries. Moi, j'ai découvert le Gohou Show sur Internet. C'est vraiment une vedette incroyable. Pour moi, il y a quelque chose près de Louis de Funès, un personnage de mauvaise foi. Comment vous travaillez ces séries, Michel ? Il y a de l'improvisation, c'est très écrit.
Et on écrit juste une ligne conduite et puis on improvise beaucoup. Ah ouais, c'est basé sur l'improvisation d'ailleurs.
On sent que les gens s'amusent bien, il y a un plaisir à jouer ensemble.
Oui, on se connaît depuis, donc quand on se retrouve, c'est un régal quoi. Chacun s'amuse, mais en sachant où on va tous.
Alors, il y a quelqu'un qui est très connu aussi dans tous les pays francophones, qui est Maman, et qui a inventé un pays imaginaire qui s'appelle le Gondwana, qui est une sorte de république africaine qu'on sent qui vit encore dans un mélange de France-Afrique, de valises de billets, d'abus divers. Et il y a un film qui en est tiré et qui va sortir là dans quelques semaines à Paris aussi.
Tout à fait. Le film qui sort de là, c'est Bienvenue au Gondwana. C'est une histoire qui se passe dans un pays africain où règne la dictature. C'est un président dictateur aussi qui décide d'organiser des élections, sûr de les remporter, parce que tous les opposants de ce pays sont tous en prison d'ailleurs. Et on les sort de prison pour aller aux élections, sûr qu'ils ne vont jamais gagner, donc sûr de retourner en prison. Donc voilà, c'est un film fait de malhonnêtes, puisque le réalisateur même est malhonnête, Maman.
Oui, c'est un salaud. Maman. Et vous-même, vous êtes un salaud, Michel ?
Oui, il faut être malhonnête aussi pour jouer dedans.
Oui, bien entendu. Alors, pour terminer quand même sur notre plus gracieuse, je vais vous demander, il y a la jeune Barbara qui est assistante sur le film, je vais vous demander, Michel, de lui faire une déclaration, comme vous feriez dans un de vos films, une très belle scène d'amour. Barbara, vous êtes prête ? Oui. Barbara est là, elle est assise, elle attend la déclaration de Michel Gau.
Bonjour mademoiselle.
Bonjour.
Comment vous allez ?
Bien.
Vous appelez comment ?
Barbara.
Oh, quel beau nom, quel nom. Ah non, non, mon Dieu, ce nom-là, je n'ai jamais entendu ça. Ah, vous êtes très belle.
Merci.
Alors, croyez-moi, vous êtes très belle, vous avez vraiment les yeux de biche. Quand je vous vois, quand je vous regarde, regardez, vos dents sont tellement blanches, on dirait une directrice de fabrication d'une pâte dentifrice. Ouh là là, vous êtes, regardez votre forme. Vous êtes bâtie, on dirait une bouteille de champagne. Ouh là, mais qu'elle est belle. Ouh là, qu'elle est belle. Le teint, on dirait la carotte. Non, mais non, vous êtes très belle, mademoiselle. Vous êtes très belle. Et quand je vous regarde, mon cœur tremble dans ma poitrine. Ça fait coucou. On dirait un train qui doit rater ses rails. Mademoiselle, franchement, je souffrais que je vous dise que Vous êtes belle. Je reviens dessus parce que, franchement, quand je vous vois comme ça, je ne tiens plus. Mon cœur tremble. Et souffrez que je vous dise que, franchement, je vous aime.
Souffrez que je vous dise que je vous aime. De me lire à Michel Gau, il n'y a qu'un pas. Merci, cher maître. Retour à Paris. Je vous raconterai la fin de cette histoire.
Yes.
Salut, merci, Michel.
Merci à tous les auditeurs. Et à bientôt.
Salut, salut.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi ?
Plus près de toi, non là pardon, mais je suis pressée là.
Tu vois Christophe, en fait ce que je savais pas en arrivant en Afrique du Sud, c'est que je suis considéré ici comme une sorte de dieu vivant, enfin de réincarnation, de divinité. On est à l'antenne ?
Ouais, oui.
Ah merde, pardon, non,
merde, non, mais... oubliez tout ça.
Tu me disais qu'il y avait des statues à ton
effigie. Oh,
mais c'est vrai ou pas ?
Parler de ça. Non. Oui, enfin c'est vrai, tout un petit culte, il y a une religion locale qui s'est créée dans un quartier de Soweto, autour de moi comme personnage. Voilà, ça me gêne, j'en tire un peu d'argent que je reverse à des œuvres diverses, qui fabriquent des costumes, qu'on reverse à des hommes politiques ensuite en liquide. Mais j'ai pas envie de parler de tout ça. Parlons plutôt de vous, Christophe Pellé.
Oui.
Comment ça se passe en studio ce matin ? Il y a la Chica, il y a un live formidable qui se prépare.
Oui, oui, il y a Rudy là qui est sous la verrière avec
live. Pas que Rudy. Est-ce que vous accueillez les artistes ? Est-ce que vous lui avez proposé quelque chose ?
Bien sûr, une boisson chaude à base de café.
Et vous avez été galant homme, Méné ?
Non, pour tout dire, Edouard, je n'ai pas croisé la chanteuse parce qu'elle n'avait pas envie de me croiser déjà. Donc on s'est pas croisé et puis elle se préparait, elle chauffait sa voix, elle accordait ses instruments, tout ça. Donc
c'est ce qu'on ne sait pas parfois sur les demandes des artistes. Parfois on croit qu'ils demandent juste une loge pour eux. Alors ensuite il y en a qui demandent aussi un plat chaud, qui demandent une voiture, qui demandent qu'il y ait tel truc dans leur loge, un bouquet de fleurs. Et certains demandent à ne pas croiser Christophe Mellé.
C'est ça. c'est exactement ce qui s'est passé. Tu vois,
c'est
donc...
ce qui s'est passé, mon vieux. Mais ça veut dire que vous existez dans son cœur. Peut-être qu'elle a eu peur, la Chica, de vous croiser.
Bah, évidemment qu'elle a eu peur.
Rudy, dans le Café Nova, Rudy.
Oui, Edouard, la Chica n'a pas demandé grand-chose. Elle a juste demandé un cadre avec la Vierge Marie un peu psychédélique qui est en fond derrière elle, que vous allez pouvoir apprécier sur le Facebook Live. C'est une demande originale.
Présentez-nous un peu la Chica.
Ah ouais, parce que c'est un gros coup de cœur. On a reçu il y a un mois de cela un disque, un petit disque, un 5 titres, tous chantés en espagnol, sobrement intitulé Oasis, envoyé par une mystérieuse femme répondant au pseudonyme aussi neutre qu'intrigant, La Chica. Qui est La Chica ? Qui est cette Chica ? Est-elle même de ce monde ? Pas si simple de répondre, il n'y a pas une réponse, il y en a plusieurs, une multitude. Quand vous imaginez La Chica, imaginez un collage psychédélique, imaginez un autoportrait de Frida Kahlo, imaginez l'envol de Yves Klein, imaginez un cut-up beatnik de Boro, et puis surtout, tentons d'imaginer la déambulation d'une femme mi-indienne, mi-latine, dans les rues du quartier le plus métissé, contrasté et sonore de Paris, Belleville. La musique de la Chica, c'est tout ça à la fois, ce sont des fragments de vie, de magie, de sensations, de spiritualité, qui au final forme un tout absolument indéfinissable, mais délicieusement frais, singulier, hallucinogène et inattendu. Et c'est peut-être ça la définition même de l'oasis. La Chica a surgi, a éclose. Oui, Edouard.
Ça a intérêt à être bien après cette présentation. N'est-ce vous nous mettez la pression.
Je lui mets la pression, mais elle sait qu'on apprécie. Elle n'est pas là par hasard. Elle est avec nous ce matin en solo, toute seule, avec sa batterie électronique et son clavier. Elle va nous interpréter un premier morceau qui est l'oasis en question, qu'on recherche tous. La Chica, c'est à vous.
Merci, mademoiselle. Yes. Merci beaucoup, La Chica, c'était effectivement magnifique. On vous retrouve avec plaisir demain. Thomas, Armel, Tito, Christophe, Marie, Thierry, François Rollin, merci Rudy. Très très bonne journée à tous. Moi, je serai toujours avec grand plaisir avec vous en direct de Johannesburg. Salut, très belle journée et vive les 30 Glorieuses.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.